Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media, le conscious media sur la transformation des industries qui couvre les grands salons professionnels en France et à l'étranger. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à Change Now, le plus grand salon international de solutions pour la planète et qui réunit toute la diversité des acteurs de l'impact social et environnemental. Dans un monde en crise où chacun fait face à des injonctions contradictoires et alors que pourtant il faut réussir à changer le système, comment faire pour chacun à son niveau trouver le sens de l'action et ensemble passer à l'action? C'est la question que j'ai posée à mes invités. Dans cette série de 5 épisodes, nous allons à la rencontre des speakers du salon Change Now, dirigeants ou activistes, pour qu'ils nous racontent leurs actions concrètes pour la planète. Je rencontre dans cet épisode Cédric Ringenbach, fondateur de la Fresque du Climat et CEO de Blue Choice, spécialisé dans le conseil pour les entreprises en transition écologique. Nous parlons éducation, stratégie climat et COP. Bonne écoute.
Bonjour, Cédric Ringenbach, je suis le fondateur de la Fresque du Climat. Alors, je suis l'auteur en fait de l'outil Fresque du Climat et je suis le fondateur de l'association qui porte le même nom et qui déploie l'outil de la Fresque. Et j'ai une autre casquette, je suis le CEO de Blue Choice, qui est un cabinet de conseil qui fait beaucoup de sensibilisation aux enjeux climatiques et notamment auprès des directions. Et qui fait également du conseil en stratégie sur les risques de transition. C'est-à-dire qu'on challenge les entreprises sur leur business model pour voir s'il est compatible avec l'hypothèse que le monde va vraiment se décarboner.
Très bien. Ravi de te rencontrer, Cédric, à Change Now, qui est un playground où tu peux rencontrer beaucoup de décideurs et où tu as vu évoluer tous ces sujets parce que toi, tu as participé à beaucoup de COP. Et on fait souvent appel à toi justement pour raconter tout ce qui s'est passé sur le plan de l'écologie à l'échelle de la planète. Qu'est-ce que tu sens comme vibration pour ce salon Change Now cette année, toi? Quel est ton feeling?
Alors, j'ai passé assez peu de temps, mais en fait, pour quelqu'un comme moi, venir à Change Now, c'est aussi rencontrer beaucoup de gens que je connais déjà et c'est un tout petit écosystème. Donc, c'est intéressant de pouvoir rencontrer les gens qu'on a l'habitude de croiser. Mais au-delà de ça, c'est aussi une façon de, par exemple, de rencontrer des utilisateurs de la Fresque du Climat qui viennent souvent me voir pour me raconter qu'est-ce que ça a pu changer dans leur vie. L'intérêt majeur de Change Now, c'est surtout tous les exposants qui sont là pour présenter des innovations. Alors, il y a de tout. Il va y avoir des innovations complètement technosolutionnistes, un peu à côté de la plaque. Il peut y avoir des choses très innovantes et très pertinentes, des choses qui vont toucher à la sobriété, au véritable changement de business model. En tout cas, voilà, c'est intéressant de regarder ça. Je pense que c'est un lieu qui est, pour le coup, qui est très intéressant pour des gens qui cherchent des projets dans lesquels investir. Je pense que ça a été un peu fait pour ça au début.
Oui, exactement. C'est vrai, ce rôle de connecteur entre les porteurs de projets, les investisseurs, c'est aussi une particularité du salon qu'on ne retrouve pas dans d'autres, cette vocation de mettre en rapport les investisseurs, les corporates et l'impact qu'on ne retrouve pas dans d'autres salons. Donc, c'est vrai que c'est assez remarquable sur ce plan-là. Ensuite, je ne sais pas si le reste de l'année, il y a des actions où... Moi, en tout cas, au travers du média, j'essaie justement de suivre plusieurs salons, de provoquer des collaborations, des connexions pour la transition et pour le changement.
Ah oui, là, je pense qu'on est sur un niveau de nombre de mises en relation qui est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se parlent, qui se rencontrent, qui se présentent les uns les autres. C'est très bien pour ça, oui.
Et c'est très international aussi.
De plus en plus international, j'ai l'impression, oui, en effet.
Exactement, beaucoup de speakers internationaux, finalement, on se dit que les plus innovants ne sont pas forcément les Français, mais par contre, du coup, moi, je trouvais ça, il me semblait qu'en termes de signes, Paris devient vraiment un hub sur les sujets de l'impact. Et donc, les internationaux viennent pour trouver des collaborations à Paris, entre diverses industries aussi. Je trouve cette transversalité que l'on peut trouver à Paris avec les industries créatives, par exemple, la technologie. C'est un aspect qui est très attractif pour les internationaux qui viennent à Paris, peut-être pour ça. Quelle est la vision qui fait que Paris est un hub? Est-ce qu'il a toujours été?
Alors oui, Paris ou la France plus généralement, j'ai un peu le sentiment qu'il y a quelque chose de spécial en effet en France. Alors je suis pas non plus un expert de tous les autres pays, mais enfin avec la fresque, ça m'a donné l'occasion de voyager et j'ai pu interroger les fresqueurs sur place, qui sont souvent des Français expats, mais qui sont quand même suffisamment implantés dans le tissu économique pour pouvoir témoigner. Et je leur ai demandé si, dans les pays où ils étaient, est-ce qu'ils avaient connaissance de l'équivalent de certaines choses qu'on a en France. L'équivalent du Shift Project, l'équivalent de la fresque du climat, l'équivalent de l'association Avenir Climatique, Climate, la Convention citoyenne pour le climat, la Convention des entreprises pour le climat, le printemps écologique, qui est un syndicat. Et donc, tous ces projets-là, et j'oublie même Pour un réveil écologique, les étudiants qui se sont réunis pour signer un manifeste. Et alors, à chaque fois, ils me disent non, ça n'existe pas, parce que si ça existait, on serait au courant. Voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en France. Et moi, mon explication, je pense qu'il y a particulièrement une personne qui est un peu à l'origine de tout ça, c'est que depuis 2000 à peu près, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui fait des confs sur le climat de façon inlassable, qui a monté le Shift Project, etc. Et cette personne a convaincu des gens qui eux-mêmes ont lancé des initiatives, et j'en fais partie. Moi, c'est lui qui m'a sensibilisé aux enjeux climatiques. Et ensuite j'ai monté la fresque, et je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui sont venus à ce sujet grâce à lui ou de manière directe ou indirecte, et ça peut faire une grosse différence avec d'autres pays où il n'y a pas l'équivalent de ce Jean-Marc Jancovici qui inlassablement fait des conférences et explique le sujet avec ses mots à lui depuis maintenant plus de 20 ans.
Donc toi, si on parle de ton actualité, justement, tu as annoncé te concentrer sur la transition et sur la formation, l'éducation des dirigeants et des négociateurs sur les sujets du climat. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, par rapport à ton parcours sur ces sujets? Où est-ce que tu penses, toi, avoir de l'impact aujourd'hui?
Alors, l'outil de la fresque, c'est ce qui est puissant, c'est qu'il s'adresse à tout le monde. C'est un atelier qui permet de mettre des gens autour d'une table, de faire fonctionner l'intelligence collective, et quel que soit leur niveau d'éducation, leur niveau de connaissance sur le sujet, ils vont faire l'exercice, beaucoup apprendre et repartir en général un peu chamboulé. Donc ensuite, on le décline dans plein de contextes différents. Il y en a qui vont le faire dans les écoles, dans des associations, dans des entreprises, etc. Donc moi, via le cabinet Blue Choice, on anime la fresque très souvent dans des entreprises et notamment, il m'arrive régulièrement de le faire dans des COMEX, y compris de très grandes entreprises. Et en fait, ce qui est assez... un peu décevant, si je puis dire, c'est que on s'attend avec des gens d'un très haut niveau de responsabilité à ce qu'ils connaissent mieux le sujet que d'autres, et en fait pas tant que ça. Ils ne sont pas experts du climat plus que la moyenne, et donc ça renforce la conviction que le travail de sensibilisation, il reste à faire à tous les niveaux. On a également fait l'atelier dans des cabinets ministériels. L'année dernière, il y a un an et demi, on en a fait un certain nombre comme ça. Et c'est pareil, c'était le même constat. Il y a toujours une ou deux personnes très sensibilisées qui ont lu tout Jancovici, le GIEC, etc. Et qui connaissent mieux que les autres. Mais sinon, le reste de ces équipes n'était pas plus acculturé que ça. Donc il y a encore un gros enjeu à former tout le monde. Enfin déjà à les sensibiliser, leur faire prendre conscience que le climat c'est un sujet. Ensuite la fresque c'est que le début, c'est vraiment que la première brique. Donc après il faut continuer à se former, peut-être se former au bilan carbone, apprendre à lire un bilan carbone, se former sur d'autres sujets que le climat également, parce qu'évidemment il n'y a pas que le climat dans les enjeux environnementaux. Et on a encore beaucoup de pain sur la planche.
Oui, et d'ailleurs, tu as développé avec la fresque du climat une approche, une méthodologie, des outils, des process. Et tu penses que c'est indispensable, c'est un accélérateur. Tu réfléchis beaucoup aux instruments pour porter tes projets de transformation, d'accompagnement des transformations.
Oui, alors la fresque, ça s'est fait un petit peu par hasard parce que j'ai testé un concept et j'ai vu que ça marchait bien. Donc, je l'ai amélioré autant que j'ai pu pour qu'il devienne très autoporteur. Et en effet, un format d'atelier un peu packagé sur lequel on forme facilement un animateur, ben, c'est un outil qui permet le passage à l'échelle. Donc, ça a été le cas avec la fresque. Avec Blue Choice, on est à l'initiative d'une... On est à l'origine d'une initiative qui consiste à vulgariser le contenu du plan de transformation de l'économie française. C'est un document qui a été rédigé par le Shift Project. Il y a 15 chapitres et on a réuni une dizaine de cabinets de conseil pour concevoir des ateliers d'une demi-journée sur chacun de ces chapitres. Voilà. Donc c'était assez extraordinaire parce qu'on a réuni des gens qui étaient concurrents entre eux pour travailler ensemble sur quelque chose qui sera d'intérêt général et qui est confié à une structure qui sera d'intérêt général. Et ça va permettre d'aller expliquer à des patrons, des COMEX, ce qui est prévu dans le plan de transformation de l'économie française dans leur secteur. Donc voilà à nouveau un exemple d'un atelier un peu packagé qui va permettre de passer à l'échelle, de croître très vite. Et chez Blue Choice, on est en train de finaliser un atelier également sur les risques de transition parce qu'on a fait le constat que quel que soit le niveau auquel on parle dans les entreprises, on a des dirigeants qui se sont pas trop posé la question de savoir ce qui allait leur arriver dans leur entreprise si la transition a vraiment lieu. Alors, toutes ces boîtes-là, elles ont prévu une feuille de route pour décarboner leur activité. Voilà. Bon, ça, c'est bien. Mais la question qu'elles ne se sont pas posées en général, c'est qu'est-ce qui arrive à mon business model si la transition a lieu pour de vrai? Et derrière cette hypothèse que la transition a lieu pour de vrai, il y a aussi l'hypothèse, évidemment, que toutes les conditions soient réunies pour qu'elle ait lieu. Parce qu'aujourd'hui, cette transition, faut pas se cacher les choses, elle n'a pas lieu. On n'est pas en train de décroître nos émissions au niveau national de 5 à 10% par an. Voilà, donc elle n'a pas lieu, elle n'est pas en cours. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais elle n'est pas enclenchée au bon niveau. Bon, quand on fait le bilan de tout ce qu'il faudrait réunir comme conditions pour que ça ait lieu, bon ben ça nous fait toute une liste. Et quand on fait l'hypothèse que ces conditions sont réunies, alors ça change complètement le paysage. Ça nous fait un scénario dans lequel il faut essayer de se projeter. Et ça, c'est un exercice que très peu d'entreprises, pour l'instant, je trouve, ont fait. Et donc, avec Blue Choice, on a un atelier qui permet de s'adresser à des directions générales pour leur faire se poser des questions qu'ils se sont souvent jamais posées. Voilà. Et ça, c'est assez important parce que pourquoi on fait ça sur le fond? Parce que je pense qu'il est important que les entreprises se préparent à cette hypothèse. Parce que si elles ne le font pas, elles risquent de s'opposer au mouvement, elles risquent de s'opposer aux mesures climatiques qui seront prises par les décideurs politiques. Et ça, c'est embêtant. C'est-à-dire que s'il y a un lobbying qui empêche les politiques d'aller dans le bon sens, ça va pas marcher. Donc il faut qu'il y ait aussi un lobbying des entreprises qui ont pris les devants et qui réclament des changements de législation plus ambitieux, parce qu'elles ont pris de l'avance et ça les rendra plus compétitifs par rapport à leurs concurrents.
C'est clair. Et d'ailleurs, oui, toutes les parties prenantes, donc tu disais se projeter si la transition a lieu, et clairement, ça signifie par exemple avoir géré ces risques-là, avoir l'accompagnement peut-être des assureurs, des réassureurs, avoir l'accompagnement des avocats, des juridiques, sur justement cette transition qui se fera, il se fera si justement toutes les parties prenantes et les conseils sont au bon niveau. Mais c'est vrai que tu fais bien de nous rappeler qu'on n'y est pas. Parce qu'en fait, sur le coup, moi je me suis dit, mais la transition, oui, on est en transition. Mais en réalité, comme tu dis, on n'y est pas encore du tout. Et j'entendais quelque chose de très intéressant sur une conférence aussi, que sur la biodiversité. Donc, on parlait, l'assessment est très important, qu'on n'a pas toujours les datas, etc. Mais que même si on avait tous les datas, ça ne voudrait pas dire qu'on irait sur ce qu'on doit faire. Donc, ça, c'est intéressant quand on y réfléchit. Et donc, dire qu'on attend d'avoir un bon assessment et d'avoir tous les datas pour y aller, en fait...
On se donne des raisons de ne pas faire les choses, en fait, à ce moment-là.
Et il faut en être conscient. Il y a une grande part de conscience, de conscientisation de tous ces sujets-là. Et parler avec les leaders, c'est là que l'étincelle prend.
Oui, exactement. Bah, il faut travailler à tous les niveaux. Il faut sortir du triangle de l'inaction, qui est que les politiques, les entreprises et les citoyens se rejettent tous la faute. Et il faut sortir de là et se dire, OK, moi, à mon niveau, sur quoi est-ce que je peux agir ? Si j'ai pas de prise sur un sujet, eh ben, autant pas en parler, autant s'occuper d'autre chose. Donc, si j'ai pas de prise sur ce que les politiques peuvent faire ou pas faire, eh ben, je vais me concentrer sur ce que moi je peux faire à mon niveau en tant qu'entreprise ou en tant que citoyen. Si je suis un politique, je vais écouter les citoyens, les entreprises, et puis je vais me former et je vais prendre des décisions qui sont au niveau des attentes des uns et des autres en termes de transition. Les entreprises aussi, elles ont leur rôle à jouer. Enfin bref, tout le monde a son rôle à jouer. Il faut surtout arrêter de regarder la paille dans l'œil du voisin ou la poutre dans l'œil du voisin, parce qu'en fait on a tous notre lot d'actions sur lesquelles on peut agir, et il faut se concentrer là-dessus.
J'avais deux questions qui me venaient en tête que je trouve assez sensibles par rapport à l'actualité. Une, donc j'ai fait beaucoup de podcasts avec des grands patrons où on parlait de stratégie ESG et de stratégie de transformation. Donc heureusement, j'ai entendu certains dire que maintenant il n'y avait plus de distinction dans la tête des patrons, et que de toute façon, la transformation, c'était une transformation qui inclut l'approche ESG. Est-ce que toi, tu trouves que c'est quelque chose qui est acquis dans les patrons avec qui tu parles ?
Non, je ne trouve pas. En fait, l'ESG, c'est un peu un outil de communication. Pour l'instant, il faut dire les choses comme ça, comme elles sont. Tant que ça ne coûte rien, on veut bien faire de l'ESG. Dès que ça commence à coûter quelque chose, on n'y va pas. Et en fait, je ne les blâme même pas pour ça, parce que c'est un peu logique. C'est justement l'approche qu'on a chez Blue Choice, elle est sur un autre paradigme. En fait, elle n'est pas de dire que les entreprises, avec leurs petits bras, doivent sauver le monde. Parce que ça, on n'y croit pas. Et je ne dis pas qu'aucune entreprise ne le fera. Il y a des leaders charismatiques qui arrivent à embarquer leur entreprise dans un changement profond, et le faire même si ça coûte de l'argent, etc. C'est assez rare, mais ça existe. Pour toutes les autres, il est assez logique de se dire, moi je suis une entreprise, ma responsabilité c'est de payer mes salariés à la fin du mois, c'est d'en garder un peu pour les actionnaires, et ça on ne peut pas les empêcher de raisonner comme ça. Par contre, changer les règles du jeu, ça c'est une décision politique. Et les politiques ont la responsabilité de changer les règles du jeu pour que l'intérêt de l'entreprise aille dans le bon sens et soit aligné avec celui de la planète. Bon, aujourd'hui, on n'a pas encore de politique climatique à la hauteur des enjeux, certes, mais qu'est-ce qui nous fait penser que ce ne sera pas le cas demain ? Parier sur le fait qu'on va continuer sur le business as usual, c'est un pari qui est tout aussi risqué que celui de dire, en fait, la transition va avoir lieu à un rythme soutenu. Voilà. Et donc, notre façon d'aborder les choses chez Blue Choice, c'est de dire aux entreprises, écoutez, personne n'a de boule de cristal, mais faites l'exercice de penser, d'imaginer que la transition, elle a lieu pour de vrai. Et dessinons ensemble le scénario qui correspond. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Voilà. Et quand on fait cet exercice-là, eh bien, on se rend compte que ça va vraiment impacter le business de la boîte. Et il faut du coup l'adapter. Voilà. Donc la responsabilité des entreprises, c'est pas de sauver le monde, mais par contre, c'est de s'adapter à l'hypothèse que on va prendre les mesures pour le faire. C'est-à-dire, on va changer les règles du jeu pour pouvoir sauver le climat. Et donc, si on change les règles du jeu, les entreprises doivent être prêtes. Celles qui sont totalement irresponsables, c'est celles qui ne se préparent pas et qui vont hurler au loup dès qu'on va changer une virgule dans les lois climat. Voilà. Et voilà, donc c'est principalement ça, l'enjeu pour les décideurs à l'avenir.
À Austin, au Texas, South by Southwest, on parle moins des sujets ESG de ce côté de l'Atlantique, et on parle énormément d'IA, de technologie. Est-ce que pour toi, il y a le risque que l'effort la volonté de... comment dire, d'intégrer l'impact dans la gouvernance d'entreprise s'essouffle au profit des sujets technologiques. Est-ce que pour toi, c'est un risque ?
Ouais, je ne sais pas. Je ne connais pas assez bien les États-Unis pour savoir, pour avoir un avis là-dessus. C'est vrai qu'il y a des mots à la mode qui occupent un peu tout l'espace médiatique et il y a un côté un petit peu moutonnier de la part des politiques et des médias souvent. Donc quand il y a un mot-clé à la mode, on fait que des articles là-dessus, on parle que de ça dans les discours. Donc voilà, en ce moment c'est l'intelligence artificielle, c'est pas non plus le seul mot-clé, donc on parle quand même d'environnement, mais c'est vrai que ça a l'air de baisser aux États-Unis, il y a l'ombre de Trump qui se rapproche, donc peut-être que les gens s'apprêtent à partir pour 4 ans sans politique climatique dans pas longtemps, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour la planète et pour les États-Unis.
Et tu disais aussi que c'est un sujet, le climat, qui shift beaucoup aux États-Unis.
Alors oui, ça bouge aux États-Unis. C'est-à-dire que même pendant le passage de Trump, les États eux-mêmes pouvaient prendre des mesures individuellement. Hein. La Californie n'a jamais arrêté d'agir pour le climat, par exemple. Et ça shift un peu comme partout. Hein. Donc d'ailleurs, la fresque marche très bien aux États-Unis. Alors on est encore tout petit là-bas. Hein. On est très loin d'avoir atteint 1 million d'Américains qui ont fait la fresque, mais ça marche très bien et ça se vend bien dans les entreprises. Beaucoup plus cher qu'en France d'ailleurs, hein, parce qu'il faut être pris au sérieux, donc faut facturer très cher les fresques quand on les fait aux États-Unis. Il y a quand même une prise de conscience. Ce qui est vraiment bizarre aux États-Unis, c'est que la question climatique est considérée comme une question politique. Voilà, comme si on allait voter les vérités scientifiques. Voilà, c'est très 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 étonnant. Je crois au changement climatique. Je suis démocrate et je crois pas au changement climatique. Je suis républicain. C'est complètement. On marche complètement sur la tête d'avoir cette approche-là. Mais bon, c'est comme ça. Donc il va falloir qu'on aille. Il va falloir qu'on réussisse à aller parler du changement climatique aux républicains sans passer pour des activistes et des dangereux réactionnaires. Enfin, des dangereux révolutionnaires. Décroissant, mais c'est bien l'objectif. Ouais.
Il y a un sujet aussi, je t'entendais lorsque tu as participé à de nombreuses COP et donc tu faisais une distinction claire entre obtenir un accord et obtenir des résultats. C'est un sujet de préoccupation pour cette transition que l'on a. Est-ce que tu peux éclairer un peu justement les auditeurs sur ce qui se passe dans les COP et ce qui sort des COP et en quoi ça fait avancer ou non la transformation et la transition?
Alors, je ne suis pas un expert des COP. Hein. C'est des process de négociation très longs, très fastidieux. C'est des séries de réunions avec plusieurs dizaines de personnes autour d'une table qui prennent la parole les uns après les autres sans même forcément répondre à ce que les autres ont dit juste avant. Hein. Ils ont chacun leur message à passer et ils vont s'exprimer sur un texte en proposant des modifications du texte et en jouant donc un jeu de lobbying pour défendre chacun leur intérêt respectif. Voilà. Et puis à la fin, ça donne un texte. Donc, de temps en temps, il y a un agenda particulier, comme à la COP 21 avec l'accord de Paris. Il fallait décider de la suite de l'accord de Kyoto. Donc, il y avait de grosses attentes. Avant ça, il y avait eu Copenhague aussi. Copenhague était déjà censé prendre la suite de l'accord de Kyoto et ça a été un échec. L'accord de Paris a eu beaucoup plus de succès. C'est des discussions très longues pour arriver à mettre d'accord un certain nombre de pays et obtenir un consensus. Donc un consensus, c'est pas l'unanimité. On n'est pas obligé d'avoir tout le monde. Un pays seul ne peut pas s'opposer au consensus. Il faut qu'il embarque quelques personnes avec lui. Donc il y a plusieurs sujets de négociation. Évidemment, il y a la réduction des émissions de CO2, il y a le financement des pays du Sud, il y a les derniers enjeux, c'était la compensation pour ceux qui ont, donc ce qu'on appelle les pertes et profits, la compensation pour les pays qui ont souffert des conséquences du changement climatique. D'ailleurs, dans les sujets de discussion, il est censé y avoir celui qui consiste à parler d'information, de formation et de sensibilisation aux enjeux climatiques, que ce soit pour le grand public ou pour les décideurs. Et ce sujet passe complètement à la trappe dans les négociations climat, malheureusement. Et je pense qu'il devrait être abordé en tout premier, parce que la connaissance, c'est la première brique de n'importe quelle transition, enfin en tout cas celle du climat. On a bien compris que tant qu'on n'est pas au courant, on va pas se bouger. Donc voilà, en quelques mots, les négo climat, donc celles qui sont en cours n'ont pas des enjeux aussi importants que celui de l'accord de Paris, mais assez vite, ça va revenir avec des agendas plus importants dans les COP à venir.
Donc la prochaine, c'est...
Alors la prochaine, elle a lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. C'est la COP 29. Et puis celle d'après, ce sera à Belém, au Brésil. Et ce sera la COP 30. Voilà, donc j'ai prévu d'y être. Et on sera un certain nombre de fresqueurs à mettre l'ambiance.
Aujourd'hui, vous avez déjà des fresques au Brésil ou pas?
Ah oui, au Brésil, il y a plusieurs centaines d'animateurs déjà de la fresque. Donc ça bouge bien. Et il y a un très, très, bon accueil par la population. Ouais.
Fantastique. Et vous êtes présent où dans le monde? Parce que...
Ah, je suis incapable de faire la liste de tous les pays de tête. Hein. Les pays où on est le plus nombreux, c'est des pays proches de la France, la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne. De tête, ça doit être les plus gros pays, ça. Et après, il y en a plein d'autres. Il y a pratiquement une centaine de pays où on a des représentants locaux. Et puis encore plus, où il y a au moins quelques fresqueurs, où il y a eu des fresques qui ont eu lieu.
Y compris en Afrique, en Asie?
Oui, en Afrique aussi, en Asie, oui, tout à fait.
C'est fantastique. Et aujourd'hui, donc, quel était le sujet de ton stage, au stage Eiffel à Change Now? La formation des décideurs, c'est ça?
Alors, c'était le sujet de l'éducation. Voilà. Et en effet, j'ai un peu ramené le débat sur la formation des décideurs. La table ronde précédente, le panel précédent a beaucoup parlé de la formation, enfin de l'éducation des enfants, entre autres. Et donc, on a parlé de la fresque, on a parlé de comment c'est utilisé dans les différents endroits. Et en effet, j'ai expliqué qu'on était en train de mener une action de lobbying auprès de la COP, enfin de la CNUC plutôt, qui organise les COP. Une action de lobbying dans le but de bien séparer le sujet de la jeunesse et le sujet de l'éducation au climat. Voilà. Pour avoir d'un côté des jeunes qui viennent exprimer leur désarroi par rapport au changement climatique, et de l'autre côté, une journée sur la formation, mais qui soit focalisée sur les décideurs, les hommes politiques, les patrons, etc.
Et l'impact, notamment sur le lien avec leur business?
Oui, le lien avec le business, donc à la fois les questions, les politiques climatiques à mettre en place du côté des hommes politiques, et les changements de business model pour les entreprises et pour les citoyens, prise de conscience, changement de comportement individuel, et puis mettre la pression sur les politiques et mettre la pression sur les entreprises via le comportement de consommateurs. Voilà, tout le monde est concerné, mais c'est vrai que en premier lieu, les décideurs en fait.
Très bien. Ben, je suis ravie d'avoir trouvé justement ce moment pour pouvoir enregistrer cet épisode ensemble. Pour terminer, est-ce que tu aurais un call to action? Souvent dans les podcasts, on termine par un call to action. Et en plus, toi, tu es drivé sur l'action, vers l'action. Quel serait le tien à transmettre?
Un call to action. Déjà, pour ceux qui n'ont pas fait la fresque, c'est de la faire. Ça, c'est le premier call to action. Ceux qui ont déjà fait la fresque, vous pouvez aussi vous former à l'animation parce que ça prend pas beaucoup de temps et je vous invite vraiment à faire l'exercice d'animer quelques fresques pour voir ce que ça fait. Et puis, réfléchissez bien pour qui vous votez aux prochaines élections européennes parce que voilà, il y a un peu de tout dans les partis qui se présentent. Je fais pas de politique, mais enfin, ayez la grille de lecture environnementale quand vous mettez votre bulletin dans l'urne. Hein. Et c'est déjà pas mal comme call to action.
Merci beaucoup, Cédric.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode enregistré en direct du salon Change Now à Paris, le plus grand salon de solutions pour la planète. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast Too Good Media pour ne pas rater le prochain épisode de cette série spéciale Change Now de 5 reportages. Retrouvez également les portraits de nos invités, les transcriptions des interviews et les photos de notre reportage sur notre site web toogoodmedia.com. Merci et à bientôt sur Too Good Media.